Le Space Cast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Mais vous êtes créatifs, les amis. Vous êtes créatifs sur le texto. Là. Il faudrait quasiment envoyer des print screens de notre messagerie texte à Éric Kerr, parce que c'est un classique, là, on l'entend souvent, là, quand on tombe à la retraite, il y a des gens qui ne savent pas trop comment s'occuper, puis ouais. C'est là que leur santé là, a chute extrêmement rapidement, puis c'est l'ennui qui s'installe. Même phénomène qui s'observe quand les enfants quittent le nid. Il y a des parents qui ont été trop longtemps parents, sont plus tant que ça un couple, ils ne savent plus trop. Faire. C'est ça. Là, man, vous n'avez des idées pour Éric, là? Plus de raison de s'emmerder, Éric.
Ben non, écoute, il y en a pour 8 vies.
Ouais, non, oui, exact. Oh, ouais. Non, non, regarde, c'est du bien qu'on vient de faire dans le Spacecast. Et c'est du bien qu'on va continuer à faire jusqu'à 22h. De toute façon, vous le savez, le Spacecast, c'est l'amour. C'est l'amour au sens large. Et quand on dit l'amour, on pense aussi à partager l'amour, oui, avec nos dames, mais aussi avec le meilleur ami de l'homme, le chien. Et je suis très content parce que ça faisait quand même un petit moment qu'on lui avait pas jasé. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le comportement, mon pitou est rendu fucked up. Je sais plus comment le gérer. Il jappe non-stop. Je veux le passer par la fenêtre. Non, non, non. Don't do that. Ne faites pas ça parce que on a Chris Corré qui est avec nous. Chris de Horus. Salut, man.
Salut à tous les deux. Comment allez-vous ce soir?
Ça va très bien, toi-même?
Ben, moi, ça va super également. Là, je suis vraiment content de vous retrouver pour encore parler de Woof Woof.
Exactement. Hey, je suis très content. Comment se porte ton refuge? T'es à combien, là, actuellement?
Là, j'ai 6 chiens présentement. J'ai réussi à trouver une nouvelle famille au 7e qu'on a eu pendant pratiquement 2 mois et demi. C'était un chien qu'on avait récupéré de la SPA de Lévis parce qu'on avait de la difficulté à lui trouver de la famille. Il est venu travailler avec ma meute. Il a appris à se socialiser. Il a appris à travailler sur les petits, on va dire, les petits enjeux de comportement qu'il avait. C'était un bouvier australien, donc un beau petit loulou avec plein de couleurs. Et on a réussi à lui trouver une merveilleuse famille dans laquelle il s'est retrouvé avec 2 sœurs canines. Fait qu'une famille de 2 chiens qui s'est enrichie de Kiwi, parce qu'il s'appelait Kiwi. Okay. Enfin, il s'appelle toujours Kiwi d'ailleurs. Fait que ça, c'est la dernière nouveauté au niveau des placements. Autrement, j'ai toujours mes 6 chiens. 6, dont 4 qui devaient normalement être de passage temporaire à la maison. Puis que finalement, ils ont réussi à trouver leur place tranquillement, pas vite. Fait que, allez, on a décidé, s'il y a de la bouffe pour 2, il y a de la bouffe pour 6.
Hey, j'ai une question un peu bizarre par rapport à ça. Tu sais, Kiwi, là, il avait quel âge quand il a quitté le refuge pour sa famille?
En fait, Kiwi, il est resté pas très longtemps dans le refuge, mais il a quitté sa famille, il avait 4 ans et demi.
OK. Mais Kiwi, mettons que la famille qui l'adopte, ils aiment pas ça le nom Kiwi, ils veulent l'appeler Barnabé. Ça se fait-tu ça, changer de nom pour un chien?
Bien sûr que ça se fait, ça se travaille, il n'y a aucun problème. Tout ça, c'est du conditionnement. Vous voyez, par exemple, nous, on a un boxeur croisé Pitbull qui est adorable, qui s'appelle Séverine. Elle a 6 ans et demi. Le problème, c'est que quand on l'a récupérée, quand on l'a capturée, parce qu'elle a été pendant 1 an en errance, on n'avait pas d'historique sur elle, donc on savait pas du tout comment elle s'appelait à la base. Elle pouvait très bien s'appeler Cactus ou whatever, mais on a décidé de lui donner le prénom Séverine.
Oh, t'es-tu là, Chris?
Non.
Oh, on t'a perdu 2 secondes.
On t'a perdu 2 secondes. Vous avez décidé de lui donner le... donner le nom Séverine.
Voilà, on a décidé de lui donner le nom Séverine. Et puis, étant donné qu'elle avait, elle avait juste... on ne sait pas si elle s'est enfuie, on ne sait pas si elle a été abandonnée, mais elle est restée pendant 1 an en errance. Fait que personne ne l'a appelée rien pendant 1 an. On l'a juste houspillée à droite et à gauche. Puis le refuge qui l'a récupéré a décidé de la baptiser Séverine. Et depuis qu'on l'appelle Séverine, et puis qu'elle a associé que quand on parlait de Séverine, c'est elle qu'on regardait, puis c'était avec elle qu'on créait des interactions, puis c'est elle qui pouvait aussi avoir, je sais pas moi, de la nourriture, des gâteries, whatever. Elle a fini par associer que finalement, Séverine, c'est moi. Et maintenant, elle y répond sans aucun problème. Donc oui, il est toujours possible, sans aucun problème, de pouvoir changer le nom. C'est sûr que si vous... Un chien qui s'appelle Kiwi, si vous lui donnez un nom qui a toujours une connotation en « i » ou un finissant en « i », sera beaucoup plus facile à modifier. Okay. Si maintenant, vous voulez l'appeler Bernabé ou whatever, c'est possible aussi, mais ça va prendre peut-être un tout petit peu plus de temps, mais ça va se faire sans aucun problème.
La clé, c'est-tu la finalité ou le début du mot?
Ça va être souvent la finalité. Le chien va entendre principalement la fin des mots. C'est pour ça que lorsqu'on donne, par exemple, des commandements comme le « assis », les gens, parfois, quand ils font le rappel au niveau de leur chien, vont dire « ici ». Et le « assis ici » peut parfois être confusant pour le chien, tout dépendant du contexte dans lequel on se retrouve. C'est sûr que si votre chien est à l'autre bout de votre cour et que vous lui dites « ici », il va comprendre que c'est plus pour qu'il s'en vienne. Mais c'est pour ça qu'on essaie toujours de trouver des commandements dont les mots ne finissent pas de la même manière, pour être sûr qu'il y ait vraiment une vraie discrimination de chaque mot et qu'il les associe vraiment au commandement attendu. Parce que dans la majorité des cas, effectivement, les chiens vont être beaucoup plus sensibles aux dernières syllabes qu'à l'ensemble du mot lui-même, finalement.
Est-ce que c'est déjà... Dernière question par rapport à ton refuge. Es-tu déjà arrivé que tu accueilles un chien ou tu tentes plutôt d'accueillir un chien puis que soit à cause de lui, son comportement, ce chien-là, ou bien à cause du pas d'interaction possible ou du fit avec les autres congénères, c'est-tu déjà arrivé que tu as dû changer de plan et dire « ben non, je peux pas l'accueillir ».
Malheureusement, ça m'est arrivé, puis c'est là où j'étais confronté aux limites de nos pouvoirs et de nos volontés, malheureusement. C'est arrivé, malheureusement, qu'une fois j'ai accueilli un chien qui, lors des premiers jours, avait exprimé un certain niveau de sociabilité, on va dire, relativement correct. Et puis finalement, du jour au lendemain, il s'est mis à attaquer tous les chiens qui rentraient dans la cour, que ça soit des chiens connus ou des chiens inconnus. Et là, on s'est aperçu finalement, en creusant un peu l'historique de ce chien-là, que c'était un chien qui avait été éduqué pour devenir un chien de combat. Et puis malheureusement, en commun accord avec l'association qui l'avait recueilli, qui en avait encore la responsabilité, on a été obligé de prendre la décision de l'euthanasier. C'est pas arrivé souvent dans ma carrière, mais trop de fois malheureusement. Mais oui, ça peut arriver parfois malheureusement qu'on n'ait pas d'autres moyens de le faire. Maintenant, un chien qui a des problèmes de socialisation, mais qui n'aimait pas d'agressivité, c'est-à-dire un chien qui a peut-être plus besoin d'être dans sa bulle, qui est peut-être moins en interaction avec ses congénères, parce que ça arrive des chiens qui n'aiment pas les autres chiens, comme des humains qui n'aiment pas les autres humains, vous me direz. Mmh. Fait que ça arrive effectivement que ça se fasse, mais dans ces cas-là, on essaye de lui trouver des environnements après appropriés, adaptés à. Moi-même, quand je les accueille, je m'assure qu'il ne soit pas nécessairement encombré tout le temps. Quand il va dehors, je m'assure qu'il ne soit pas avec tous les autres chiens, par exemple, ou juste avec des chiens avec lesquels le niveau de tolérance est raisonnable. Mais mis à part quand il y a des enjeux de dangerosité et d'agressivité, on arrive toujours à trouver une solution. Et je n'ai jamais refusé à un chien, quelle que soit cette problématique, sauf, comme je vous le dis, quand on est vraiment dans un enjeu de sécurité.
Est-ce qu'il y a des chiens meurtriers? T'sais, le chien qui attaquait les autres, là, est-ce que tu penses qu'au-delà de proférer des blessures aux autres chiens, est-ce qu'il aurait pu emmener jusqu'à les tuer de façon volontaire?
Probablement, oui. On a réussi à chaque fois à s'intercaler. Il y a eu trois épisodes d'incidents dans le refuge dans lequel j'ai été obligé d'intervenir. Je pense que si je n'avais pas intervenu, effectivement, il aurait peut-être pu au moins lui ficher des blessures graves, peut-être même des blessures létales, tout dépendant de l'endroit où il les aurait blessées. Ça pourrait être au niveau de l'abdomen, parce qu'en général, quand un chien veut vraiment tuer un autre, c'est l'une des places privilégiées parce qu'il arrive directement sur les organes internes du chien. Ça peut arriver aussi qu'il les pogne dans le cou ou autre. Mais oui, c'est possible que si je n'étais pas intervenu, il aurait pu probablement provoquer des lésions sévères, voire même des lésions mortelles.
Hmm. Question que j'ai pour toi, j'ai tout le temps une petite balle courbe en début de chronique, tu le sais.
Ouais.
En lien avec la destinée improbable de Yoko, le chien saucisse. et là, aux dernières nouvelles, là, ça a l'air que la saucisse est due pour un détartrage. Le détartrage, ouais. Est-ce un must? Est-ce un caprice de chien riche? Ou, et en sous-question, y a-t-il des alternatives à pas 900 $?
J'aurais tendance à vous dire que oui, c'est un peu comme nous, on est capable de pouvoir prévenir l'apparition du tartre. Tout dépend de l'entretien que vous allez faire au niveau de la dentition de vos chiens. Alors, il existe des brosses à dents que vous mettez sur le bout de votre doigt qui va vous permettre de pouvoir brosser les dents de vos chiens. Ça, naturellement, ça va être beaucoup plus facile si le chien a été habitué très jeune et très petit dans son processus de socialisation à accepter d'avoir une brosse à dents dans la bouche au moment où on veut lui brosser les dents. Vous avez également différents types de produits. Je pense notamment à un produit pur québécois qui s'appelle Animora, qui sont toute une ligne de produits qui font de la prévention bucco-dentaire, dans lequel vous allez pouvoir y mettre même dans la nourriture directement et qui va avoir des agents actifs pendant que le chien mange, qui va lui permettre de pouvoir limiter l'apparition du tartre. Malheureusement, quand on dit prévenir l'apparition du tartre, on ne l'enlève pas complètement. Et c'est vrai que certains chiens, comme certains humains, vont avoir parfois des aptitudes ou des capacités à accumuler plus de tartre que d'autres. Et il en vient après de la santé bucco-dentaire. Et on sait que la santé bucco-dentaire entraîne parfois d'autres problèmes de santé si ce n'est pas traité. Et il arrive parfois qu'effectivement, ce serait intéressant de pouvoir faire un vrai bon nettoyage si on se retrouve effectivement avec un chien qui a des problèmes de tartre importants, puisque ça peut avoir des impacts sur sa gencive, ça peut avoir des impacts sur tout simplement le maintien de ses dents. Puis on sait que si le chien perd du coefficient de mastication, donc sa capacité de pouvoir mastiquer et casser sa nourriture pour pouvoir l'ingérer, c'est l'estomac qui fait la job derrière. Donc ça peut entraîner après d'autres problématiques au niveau de son système digestif. Donc c'est sûr que si vous voyez qu'il y a une apparition de tartre qui est quand même assez significative, puis que ça commence à devenir difficile, qui pue vraiment de la gueule, mais qu'en même temps, vous voyez que c'est vraiment accumulé. Ouais, je pense que ça peut être un investissement intéressant, mais si vous ne voulez pas vous payer un 900$ tous les 6 mois ou tous les ans pour votre chien, ou tous les 2 ans, essayez pourquoi pas de faire une petite prévention en faisant un entretien régulier de sa gueule.
Est-ce qu'il y a, en fait, est-ce que les petites races ont vraiment, parce que je lisais, puis les petites races, les petits chiens ont l'air d'avoir plus tendance à développer des problèmes de tartre que les grands chiens. Pourquoi, hein?
Ouais, alors ça, ce qui arrive très souvent avec les petits chiens, là, c'est que les petits chiens à sa maman, très rarement, ils vont manger des croquettes. On va leur donner plus des pâtés. Vous savez, les petits pâtés où on voit justement la gueule du chien idéal, du petit chien. Ce qui fait que la problématique, c'est que ils vont accumuler de la nourriture dans leurs gencives, au niveau de leur bouche, etc., au niveau de leur gueule, au niveau de leurs dents. Et contrairement à une croquette qui, elle, quand vous la croquez, va avoir parfois même tendance à nettoyer un petit peu, parce que les croquettes sont relativement assez dures. Donc quand une dent, une canine croque la croquette, le fait d'avoir le frottement de la croquette sur la dent peut être amené parfois à la nettoyer indirectement, finalement. Alors que si vous mangez que du mou, finalement, vous n'avez pas cette même fonction lorsqu'il y a une prise en charge de la nourriture par la gueule. Fait que c'est sûr, les petits chiens qui ont tendance à manger que du mou et qui ne mangent jamais de croquettes vont possiblement amener à faire une accumulation de tartre un peu plus importante et peuvent avoir effectivement des problèmes dentaires, tout simplement parce qu'on ne leur a pas permis de pouvoir muscler leur propre mâchoire, tout simplement, et puis tout leur système bucco-dentaire.
Ouais,
ça arrive.
OK. Écoute, je vais. Il y a un auditeur qui nous dit que lui, il donne un dental stick par jour, le soir, à son chien. Elle a 10 ans, puis ça a l'air que ses dents sont impeccables.
Ouais, ça arrive, effectivement. Une fois de plus, ça va être une question de constance aussi. C'est-à-dire que là, il est en train de nous apporter une précision intéressante, c'est elle y a le droit à tous les jours. Ce qui veut dire que c'est comme nous, quand on fait un traitement régulier de nos dents, quand on va se brosser les dents à chaque fois qu'on a mangé, ou au moins une fois par jour, tout dépendant de nos capacités à avoir accès à nos outils d'hygiène. Mais oui, s'il le fait régulièrement, puis que ça permet au chien de pouvoir justement se nettoyer les dents via ses produits dentaires, oui, ça peut faire la job, effectivement. Mais une fois de plus, c'est une question de régularité encore.
Hey, on a peut-être une question d'un auditeur. Si t'es partant, on va aller au téléphone le rejoindre.
Allons-y.
Radio X, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va bien.
Oui, vous avez une question pour Chris?
Oui, absolument. Je vais essayer de faire ça court. Depuis peu, je suis rendue à 3 chiens à la maison. Mon premier chien, elle a 5 ans. Est-ce que vous connaissez les bergers finnois de Laponie?
Oui.
Bon, OK. C'est un berger finnois à gros pourcentage, mais mélangé avec berger allemand. Donc, elle est plus grosse un peu, mais elle a beaucoup les caractéristiques du finnois. Super calme, très caractériel, mais vraiment autonome, gentil, tout ça. Ensuite, j'ai un husky de 2 ans que j'ai sauvé. C'était une de mes amies qui était malade. Elle faisait de la fibromyalgie. Elle habitait dans un trou et demi. Le chien était tout le temps dans sa cage. Elle n'avait même pas de cours. En tout cas, je l'ai sortie de là. Maintenant, elle est foulereuse chez nous. Les deux s'entendent bien. Tout le kit. Mais le husky a beaucoup trop d'énergie pour mon premier chien. Elle est tannée. Elle veut toujours jouer. Moi, je les amène beaucoup dehors. Je les stimule même qu'elle va chez un dresseur que beaucoup qu'elle joue, ils vont à, ils sont toujours dehors, tout ça. Là, récemment, je rescue un autre chien. Je vous explique pas comment c'est arrivé, mais genre, je l'ai sorti d'une maison de crackhead, c'est une usine, mm-hmm. les deux. Les deux bergers allemands sont meg. Ils sortent, genre, quand ils sont pas prêts, tellement ils veulent d'argent. Le bébé chien, je l'ai sorti de là, et tous les autres, d'ailleurs, que j'ai aidé à trouver des gens pour les sortir de là. Elle avait même pas 2 mois, il fallait que je continue à la nourrir avec du lait, toute la patente. Mais elle est super en santé, pas de problème de comportement pour le moment. Puis là, c'est l'amour fou avec ma husky. Mais là, j'ai ma première qui est en dépression. Totale.
Elle s'est abandonnée.
C'est pire que ça. Elle mange plus, elle est dans son coin, elle est en dépression totale. Puis je comprends, mais je sais pas quoi faire.
Est-ce que vous attachez un petit peu plus de temps? C'est une bergère allemande que vous avez rescue pour la dernière, là, c'est ça? Hein?
Oui, c'est une
peu. Elle a 2 mois, elle. La bergère finnoise, elle a 5 ans, hein, c'est ça que vous m'avez dit?
Exact,
oui. Et la husky, elle a quel âge?
Entre 2 et 3. Tu sais, j'ai jamais su vraiment son âge.
Oui, c'est une rescue aussi.
Proche 3.
OK. Ouais. OK. Bon, on s'entend que la bergère finnoise, est-ce que vous l'avez eue quand elle était bébé, elle?
Oui.
Ouais. Donc, on s'entend qu'elle a vécu pendant plus de 2 ans quasiment, pendant 5 ans quasiment. Enfin, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'elle vit avec le husky, mais on s'entend qu'elle a vécu seule à un moment donné avec votre seule et unique exclusivité. Est arrivée après la husky qui, elle, était déjà à peu près adulte quand vous l'avez récupérée. Elle était adulte, oui. Quand vous l'avez récupérée.
Elle avait à peu près 8-9 mois.
Ouais, donc c'est ça. Elle était en train d'entrer dans sa période d'adolescence. Fait que, on était dedans. Puis là, donc, elle a vu déjà son environnement se restreindre par rapport à son niveau d'exclusivité. Puis là, il y a une petite louloute qui vient de faire son apparition de 2 mois, pour laquelle, j'imagine, vous attachez pas mal de temps, puisque vous êtes encore en train de travailler quasiment sur son processus de sevrage. Donc moi, ce que j'aurais tendance à faire pour voir un petit peu comment ça évolue, c'est à vous consacrer des temps exclusifs juste avec la bergère finnoise, c'est-à-dire laisser peut-être la bergère allemande s'occuper de temps en temps d'éduquer, la husky s'occuper peut-être un petit peu de l'éducation de la... Mais que vous preniez des marches exclusives juste avec votre bergère finnoise, je pense que ce qu'elle a juste besoin à un moment donné, c'est aussi de retrouver un peu sa place. Naturellement, si vous voyez que ce comportement se maintient dans le temps, ça peut être aussi d'autres problèmes, des problèmes qui ne sont pas nécessairement de nature comportementale, à moins que vous ayez déjà écarté tous les problèmes de nature physiologique, c'est-à-dire... Est-ce qu'elle a un problème au niveau de son cycle de digestion? Est-ce qu'elle a un problème au niveau... Bref, est-ce que ça peut être un problème médical, en un sens, qui pourrait influer sur son comportement?
Une coïncidence, mais ça pourrait,
Mais ça, une fois qu'on a écarté tout ça, là, qu'on se rend compte que potentiellement, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Moi, ce que j'aurais tendance à faire dans un premier temps, la perte d'appétit, ça peut être lié pas que à de la dépression, ça peut être lié à d'autres problématiques, comme on l'a dit, mais je pense que vous la connaissez suffisamment bien pour vous rendre compte que là, elle est dans une dépression, dans le sens où elle doit être apathique, elle n'a plus envie de jouer. Vous m'avez dit, elle reste dans son coin en plus, elle s'isole, elle n'a aucune interaction avec les... Aucune interaction. Est-ce qu'elle continue à avoir des interactions avec la husky quand même, ou pas du tout, du tout?
Ben, ils se croisent dans la maison, mais ils ne jouent plus ensemble comme ils faisaient.
C'est ça. Et est-ce qu'elle a des interactions avec la petite dernière qui vient d'arriver de 2 mois? Est-ce qu'elle a de la curiosité? Est-ce qu'elle est allée
à grogne? À grogne. Mm-hmm.
Yeah, ouais,
ils n'osent pas trop la chicaner parce que je lui ai dit non, doux. C'est un bébé, doux. Mais je veux dire, en même temps, je ne veux pas la chicaner pour qu'elle se sente encore plus exclue.
Okay. Exact. Vous avez employé le terme, hein. Je pense que la notion d'exclusion, elle se la crée elle-même. Donc moi, ce que j'aurais tendance à faire dans un premier temps, c'est de reprendre des moments exclusifs avec le berger finnois, juste des moments que vous allez faire sans nécessairement la présence des deux autres, puis de temps en temps, de faire des activités ludiques de jeu en présence de la petite dernière, la bergère allemande qui vient d'arriver. C'est-à-dire qu'il faudrait que la bergère finnoise soit capable d'associer la présence du berger allemand comme quelque chose que vous allez faire avec la bergère finnoise, que vous ne feriez pas sans la présence du berger allemand. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la bergère finnoise, tranquillement, pas vite, ait le sentiment de se dire « Oh, waouh, là, je peux faire une activité qui est récompensante, réconfortante, quand la bergère allemande est là. » Mais quand la bergère allemande n'est plus là, hop, ça s'arrête. Pour que cette association ne soit pas nécessairement que négative. Mais en parallèle, Oui, reprendre un petit peu de temps avec la bergère finnoise pour qu'elle elle se sente pas. Vous savez, moi, je me retrouve avec 6 chiens à la maison. Là. J'ai eu en premier lieu un seul et unique loulou qui était un husky croisé Bouvier-Bernois qui a occupé mon exclusivité, ma totale attention pendant pratiquement ces 5 premières années. Et après ces 5 premières années, on a perdu le contrôle. Là, on a adopté un deuxième chien, puis on a commencé à accueillir d'autres chiens en pension ou en refuge. Puis là, maintenant, on se retrouve avec une meute de 6. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'à chaque fois que je faisais rentrer un nouveau chien, je m'assurais toujours, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, je m'assurais toujours que les chiens qui étaient déjà là ou qui étaient déjà présents soient vraiment, fassent partie de la fête. Là. C'est-à-dire, pour moi, ce n'était pas genre, bon, ben, guys, désolé, je ne vais plus avoir le temps de m'en occuper, j'en ai un nouveau qui va avoir des gros problèmes parce que j'ai récupéré, par exemple, aussi une chienne qui sortait d'une usine à chiots, qui avait peur de tout. Le moindre petit bruit qui se passait, le moindre ustensile qui tombait à terre, c'était le trauma assuré. Donc, il a fallu effectivement qu'on travaille, mais ce n'est pas parce qu'elle me demandait plus de travail que j'ai pour autant laissé de côté les autres. Au contraire, je me servais souvent des autres chiens pour être le catalyseur. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas que le chien associe que l'arrivée d'un nouvel être peut devenir pour lui une source de perte de quelque chose. D'attention, l'exclusivité, c'est sûr qu'elle ne l'aura plus, la cocotte, mais l'attention, au moins, les interactions sociales ou quoi. Parce que si elle voit qu'à un moment donné, ça se passe, puis vous voyez, vous me l'avez dit, hein, quand la petite louloute s'en vient, elle a tendance à grogner un peu. Fait qu'elle ne doit pas nécessairement la voir comme étant « Oh, je suis tellement contente que tu fasses partie de ma vie maintenant, c'est tellement génial depuis que tu es arrivée.
» Pensez des moments solo. Commençons avec ça. Eh bien, merci de votre appel.
Exact. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant s'il y a quoi que ce soit. Vous pourrez voir éventuellement avoir mes coordonnées. Ça me fera plaisir d'avoir un suivi parce que merci de la job que vous faites. Merci de ce que vous avez fait pour les bergers allemands. Merci beaucoup.
C'est gentil. Merci, bye.
Salut, bye-bye. Merci beaucoup. Ça là, c'est ton genre, hein, Chris. Des gens qui font des rescues puis tout ça. Là, je l'ai senti. Là, t'es parti parce que c'est tes préférés, c'est ton dada, là.
Ben, malheureusement, comme je dis très souvent, ces petits loulous-là, ceux qui sont des rescues, tu sais, il n'y a aucun chien, aucun humain non plus qui demande à venir au monde. Il y en a même certains maintenant qui vont quasiment porter plainte contre leurs parents parce qu'ils sont nés sans leur consentement.
Oui.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que les chiens non plus, ils choisissent rien de rien. Et puis, malheureusement, quand ils sont nés là, puis qu'ils sont là, et puis qu'ils n'ont pas nécessairement de problème de tempérament, de comportement ou autre, qu'ils ont juste besoin de retrouver un abri sûr, confortable et qui va leur assurer l'accès à leurs besoins primaire, c'est sûr que moi, quand je vois que certaines autres personnes vont adopter des petits chiots, des petites affaires, alors qu'il y en a tant encore qui sont en attente d'une deuxième chance, c'est sûr que j'ai un peu de misère à comprendre le concept. Alors, quand je tombe sur des gens qui sont là pour une deuxième chance avec leur chien, c'est sûr que je leur donnerai tout. D'ailleurs, pour la SPA de Lévis, quand un couple adopte un chien par la SPA de Lévis, s'il a besoin de mes services, je leur offre une heure de consultation gratuite à domicile. Je ne demande rien à personne. Je veux juste encourager ce genre de d'adoption-là. Fait que oui, tu l'as bien. Tu me connais bien maintenant, Jeff. Je pense que tu m'as bien sizé. Là.
J'ai freiné la conversation parce que je savais que 2 minutes de plus, puis tu partais chez eux bénévoles. C'était pour toi que j'ai freiné ça, mon cher Chris.
T'es cute, merci.
Hey, je veux t'entendre absolument sur un élément d'actualité. Puis, tu sais, généralement, on fait des chroniques qui ne sont pas nécessairement connectées sur l'actualité. Mais là, c'est Louis qui m'a fait penser à cet enjeu-là. Les animaux de compagnie, quand il est question d'être locataire, puis je vais t'avouer là, que moi, je suis tiraillé dans mes valeurs par rapport à ce dossier-là, parce que là, il y a eu un gain de cause sur quelqu'un qui avait une problématique avec son animal, son propriétaire. Finalement, la cour a décidé qu'il pouvait garder son animal de compagnie avec lui. Et de l'autre côté, on a aujourd'hui la ministre responsable de l'habitation, Mme Proulx, qui dit, je rappelle à tous les propriétaires et tous les locataires qui, dans les prochaines semaines, vont signer un bail qui les permet d'inscrire l'interdiction d'avoir un animal ou un logement, dans un logement. Fait que là, moi, je suis hyper tiraillé parce que j'adore les animaux, puis je trouve ça épouvantable de dire non, toi, si tu veux habiter ici, tu dois te départir de ton animal. Mais de l'autre côté, je reconnais que si tu as un logement et que c'est ton projet de retraite ou peu importe, même sans que ce soit ton projet de retraite, c'est quelque chose auquel tu tiens, ça se peut que tu n'aies pas le goût que ça sente le chien ou peu importe, que et ou bien même que ça sente le chien après le départ, que tu aies ce stress-là, que ça sente le chien. Je peux comprendre que tu n'aies pas le goût de donner là-dedans. Toi, tu te situes où par rapport à ça?
Ben, écoute, c'est super intéressant parce qu'effectivement, donc le 12 mars dernier, comme tu le disais, l'actualité a donné gain de cause par l'intermédiaire du TAL, là, d'un tribunal administratif, en un sens, ouais. Qui a dit, ben oui, tu peux garder ton chat et ton chien, puisqu'on parlait de deux animaux de compagnie, en l'occurrence, pour ce cas-là. Pour l'instant, on s'entend que ça peut faire cas de jurisprudence si étant donné qu'il n'y a pas eu un appel. Il est possible qu'il y ait un appel qui remette en considération cette décision de justice. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'informations quant à savoir s'il y a eu appel ou pas de la part du propriétaire. Maintenant, j'aurais tendance à te dire, tout revient encore sur une problématique de responsabilisation d'humain. C'est l'une des causes d'abandon les plus importantes qu'il peut y avoir au Québec et comme dans de nombreux autres pays de la planète, là, j'aurais tendance à dire, c'est quand tu te retrouves à devoir déménager puis que ton futur logement ne permettra pas l'accès à tes chiens ou à tes chats, ben, ça va être l'une des causes de séparation de ton animal de compagnie. Actuellement, au Québec, on évalue que seuls 4,2% des propriétaires autorisent d'avoir des animaux dans les logements qu'ils mettent à disposition de locataires. Mais pourquoi aujourd'hui on fait ça? Bah, tout simplement parce que l'humain, pourquoi les propriétaires sont réticents? Bah, parce que l'humain, effectivement, sans même parfois des animaux de compagnie, ne sont pas capables de rendre en état un logement qui leur a été confié. Alors, avec des animaux, d'autant plus, parce que parfois, malheureusement, il n'y a pas de prise de responsabilisation de l'humain quant à le fait de faire entrer des chiens dans un condo. Et je comprends le propriétaire qui va dire « Ouais, mais moi, je prends un risque, là, parce que si ton chien, c'est un husky, comme le disait la madame tantôt, qui a besoin de dépenser beaucoup d'énergie, qui passe la journée longue dans la maison ou dans le condo, que toi, t'es pas là, puis tu lui permets pas de dépenser ses besoins de dépenses énergétiques quotidiennes, c'est sûr qu'il va me bouffer les murs, c'est sûr qu'il va me bouffer les plinthes, c'est sûr qu'il va me bouffer tout, c'est sûr qu'à un moment donné, il va faire de quoi, qu'il va faire que quand tu vas me rendre le logement, ça va être juste un chaos international. » Et ça, je peux le comprendre, cette peur-là.
Il y a ça, puis aussi, il y a ça, Chris, puis ajoute aussi les autres locataires. T'as peut-être pas le goût, comme propriétaire, de gérer les « Ah, j'ai peur des chiens. Ah, ils jappent. Ah, il y a des odeurs. »
Oh, ça chie un chien, il faut que ça chie sur un terrain.
Oui, c'est ça, les cacas non ramassés. T'sais, des fois, même le propriétaire du chien peut être bienveillant, mais des fois, on en perd un, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Ça arrive, effectivement, mais comme je te dis, je pense que c'est vraiment un niveau de responsabilisation. Ton chien, il fait caca, t'as ramassé automatiquement. Là, maintenant, on te dit plus, si tu rentres dans la voiture puis t'as oublié de mettre ta ceinture de sécurité, on va pas te dire, bah oui, mais il y en a des fois, ça l'échappe. Bah non, maintenant, tu sais que t'es obligé de mettre ta ceinture de sécurité, c'est quand même ça. Fait que tout le monde met sa ceinture de sécurité, personne n'utilise son cellulaire au volant. bref, il y a des règles comme ça qui sont mises en place. Puis ces règles-là, si on les respecte pas, la problématique qui se passe, c'est que ben ça va avoir un impact et un préjudice sur toute la communauté après, derrière. Parce que si on voit que c'est pas suffisamment respecté, on va soit l'endurcir, soit en rajouter des nouvelles, et ça va toujours être au détriment de nos droits et libertés. Alors, c'est sûr que le tribunal a considéré que, normalement, pour tout ce qui est le droit, le terme exact qu'ils avaient défini, alors attendez, j'essaie de vous retrouver exactement la raison pour laquelle, si on attend, bref, je crois que c'était au droit aux libertés, les droits de l'homme et tout ce qui va bien autour, là. Bref, il y avait vraiment des choses qui avaient motivé comme quoi, normalement, on n'est pas supposé refuser à des animaux de compagnie aux gens qui vont habiter dans une maison. Maintenant, une fois de plus, si nous avions tous nos responsabilités à cœur, si on était tous capables... Je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, j'ai été obligé de changer à un moment donné de maison de manière quasi immédiate parce que j'étais dans une maison qui prenait l'eau et puis elle devenait néfaste pour notre propre santé. Je me retrouvais avec trois chiens, trois gros chiens de grosse taille. J'ai une personne qui était prête à me laisser son logement, mais qui hésitait parce que quand elle a vu que c'était trois gros chiens de grande taille, elle m'a dit « Ah, parce que là, moi, j'ai mes planchers et tout, je viens de faire de quoi ?» Elle n'était pas nécessairement contre, mais elle me dit « J'ai des préoccupations par rapport à l'entretien. » Nous, ce qu'on lui a dit, écoute, dans tous les endroits où tu as du plancher dans lequel tu n'es pas à l'aise, on va aller chez Bricorama, là, ou on va aller chez,
un endroit qui
dans un magasin de bricolage, dans un magasin de bricolage, là, chez... dans une quincaillerie quelconque, on va aller prendre du plancher flottant, puis on va t'en mettre partout là où tu as peur qu'on abîme les endroits. On est allé mettre un plancher flottant, on l'a mis de partout, on est resté 2 ans là-bas. Pendant 2 ans, les chiens pouvaient marcher dans un environnement où on n'était pas sans cesse en stress de quoi. On a enlevé le plancher quand on est parti, on lui a rendu son appartement, sa maison, nickel. Il était de notre responsabilité aussi de faire un minimum d'efforts pour donner aussi l'envie à la propriétaire de nous laisser arriver avec nos 3 gros chiens. Donc, il arrive dans certains cas où il faut aussi qu'on soit en mesure de démontrer aux propriétaires qu'on a vraiment la responsabilité de nos animaux à cœur et qu'on a bien conscience qu'ils nous donnent l'opportunité, ce qui n'est pas le cas de la majorité, donc de 96% des personnes au Québec, de nous donner, d'avoir un toit qui n'est pas le nôtre, en présence de nos chiens. Donc c'est sûr que si nous, on y met un petit peu du nôtre aussi, ça va aider dans les prises de décision. Parce que veut pas, une fois de plus, les cacas qui traînent, c'est notre responsabilité. Le condo qui est abîmé, c'est notre responsabilité. Mais malheureusement, celui qui va trinquer à la fin, c'est le chien. Parce que si à un moment donné, ça ne marche plus, c'est le chien qui va se retrouver en refuge.
Exact. Hey Chris, un gros merci, Krim, de nous avoir jasé ce soir. Puis je suis d'avis avec la maman de Maggie, une dénommée Annie, qui nous dit « Je veux juste dire à Chris qu'il est excellent coach canin et très bon à la radio. » Je suis bien d'accord avec elle.
Vous êtes cute. Ben, je fais un gros bisou à Annie et puis je la remercie de ses bons mots. Et je vous fais des gros bisous à tous les deux aussi.
Hey, on se reparle bientôt, mon cher.
Avec plaisir.
Salut.
Bye.
Bye.
Bye. C'était Chris Corré de Horus, notre ami avec qui on aime jaser de comportement canin, comme vous l'avez entendu. Il connaît ça, il aime ça.
Absolument.
C'est la genèse du Spacecast, des passionnés, puis là, je pense qu'on est en plein pile-poil dessus.
Un vrai de vrai.
Yes. Hey, pendant notre vie, il y a un moment où j'ai comme zoné out pour une raison. On a reçu des informations de quelqu'un qui, généralement, est bien informé. Là, j'ai remonté un peu dans l'historique, puis tout ça, puis tout fait du sens dans ce qu'il nous raconte. On a une source. On va être franc avec vous, là. On a une seule source.
Mais c'est une source fiable.
Oui.
Tu as calé des shots.
Oui, puis tu sais, j'avais une source pour le Soldia aussi. Puis c'est arrivé, mais un an après. Fait que tu sais, ça se peut que ce qu'on va vous dire là arrive dans un an. C'est pas
non,
impossible.
Mais d'après moi, ça va être dans tous les médias demain matin.
Je pense aussi, effectivement. Il y aurait eu, au courant des dernières heures, genre minutes, un meurtre qui vient de se produire au pénitencier de Donnacona. Un détenu.
Un autre.
Exact, parce que c'est quoi? Ça date de 2 semaines. Un gars qui, un peu de la même façon de ce que je comprends, un détenu s'est fait trancher la gorge
encore dans
le gym. On dit 240. Est-ce que c'est un endroit, ça, le gym 240? J'en sais trop rien, là. Mais au pénitencier de Donnacona, ce soir, un homme aurait été assassiné, tranché la gorge dans le gym. Fait que voici les informations qu'on a. Vous aurez visiblement plus de détails dans l'actualité.
Absolument.
Yes. All right. Hey, petite pause. Le Spacecast est avec vous jusqu'à 22h. On revient.
Le Spacecast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.